Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuille de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans des moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous, éléments importants à ne pas manquer. Cet épisode aura pour bruit de fond le vivant qui grouille autour de moi. Le sujet du jour. 8 avril 2026. Projet de loi d'urgence agricole. Que contient ce texte de loi? Quel mécanisme serait enclenché à la suite d'une adoption de ce texte en l'état? Comment le vivant et nos paysages seraient impactés? Le gouvernement, en la personne de notre ministre de l'Agriculture Annie Genevard, a présenté ce mercredi 8 avril un projet de loi d'urgence agricole qui devrait être examiné fin mai par l'ensemble des députés, puis en juin par le Sénat pour une adoption finale espérée d'ici à fin juillet. Promis en janvier par Sébastien Lecornu pour apaiser la colère des agriculteurs mobilisés, ce texte prévoit notamment de faciliter la construction d'ouvrages de stockage de l'eau. Ce gros document contient en réalité 23 articles. Afin d'en simplifier la compréhension, je vais tenter de rassembler ces articles par thème et impact potentiel sur le vivant et les paysages. En premier lieu, ce texte s'intéresse vivement à la rémunération des agricultrices et agriculteurs. L'article 1er a pour objet la protection et la souveraineté agricole sur la base de projets d'avenir agricole territoriaux. En bref, si toi, jeune agricultrice ou agriculteur, tu souhaites installer une production particulière et avoir des subventions du dispositif, il faut que cela permette au pays de réduire sa dépendance à l'importation, tout en ayant une filière déjà identifiée sur le territoire. Un débouché pour toutes ces productions. Alors bien sûr, le dernier critère est celui d'un projet adapté aux ressources du territoire face au dérèglement climatique. D'après ce texte, on tendrait vers une plus grande cohérence de production et une plus grande attention au contexte climatique. Cependant, la façon dont sont conduites ces productions ne sont pas abordées et n'intègrent donc pas une considération de la santé des sols ou des riverains, ou bien encore l'impact paysager de ces nouvelles installations. Autre article concernant les prix. Il est question de tunnels de prix. Les parties pourront fixer une fourchette dont la borne minimale ne pourra être inférieure aux indicateurs de coûts de production, sauf justification explicite. On ne vendrait pas moins cher que ce que le produit coûte à produire. Un modèle qui s'inspire sûrement de la marque C'est qui le patron, sans pour autant prétendre à exiger une rentabilité de cette production. Pour sécuriser ces relations, le rôle des organisations de producteurs est sanctuarisé. Tout acheteur tentant de contourner une organisation de producteurs ou d'inciter un producteur à la quitter s'exposera à des sanctions. Côté pesticides maintenant, l'article 2, 3 et 4. L'article 2 permet quant à lui à la ministre de l'Agriculture seule d'empêcher l'importation de denrées comportant des résidus de pesticides lorsque ceux-ci sont interdits dans l'Union européenne, dans les 2 mois suivant l'interdiction. L'article 3 autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour encadrer une brigade de contrôle des produits alimentaires importés. Et dans la même logique, l'article 4 interdit les produits non européens dans la restauration collective publique, sauf en cas d'absence d'offre. Pour rappel, l'Union européenne est loin d'interdire les différents pesticides qui font actuellement débat, notamment les fameux néonicotinoïdes. Ce texte est donc une porte ouverte à la réintroduction de substances ayant un impact direct sur les populations d'insectes et donc sur l'ensemble du vivant, de la chaîne alimentaire humain compris. Côté gestion de l'eau maintenant, article 4, 5, 7, Sur le volet hydraulique, qui constitue le cœur du texte, le gouvernement souhaite alléger les contraintes pesant sur l'irrigation. L'article 5 rend ainsi facultative la réunion publique lors des demandes d'autorisation pour des ouvrages de stockage d'eau, les fameux méga-bassines. En cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement par la justice, le préfet pourrait désormais accorder des autorisations provisoires allant jusqu'à 2 ans pour que cette rétention d'eau existe. De plus, l'article 7 permet au ministre de l'Environnement de déroger aux règles des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les fameux SAGE, pour autoriser les projets de stockage. Parallèlement, le texte s'attaque aux zones les plus polluées en permettant l'exonération de certaines contributions financières pour les producteurs d'eau publique en zone sensible en fonction de la qualité de l'eau brute. L'article 6, quant à lui, concerne les zones humides et la compensation obligatoire lorsque celle-ci est détériorée. Cette loi prévoit de prendre en considération l'état actuel de la zone humide et, si celle-ci est dégradée, de réduire en conséquence la compensation exigée pour sa destruction. L'article 8 donne à la collectivité le rôle de créer un plan d'action afin de protéger les aires de captage d'eau potable. Si la qualité de l'eau est encore satisfaisante, ils en seront exonérés. Ok, pour le vivant, ces mesures sont une mauvaise nouvelle. À aucun moment, il n'est question d'augmenter la capacité de nos paysages à retenir et assainir l'eau dans les sols, dans la végétation et dans les cours d'eau. Au contraire, on parle de retirer de l'eau de cycles naturels sans aucune cohérence avec les besoins en eau des paysages dans les périodes les plus sensibles afin de préserver ce qui maintient le vivant et les écosystèmes à peu près valides, notamment dans le cadre du dérèglement climatique. De même, les zones humides dégradées ne sont pas considérées comme des espaces avec un potentiel à restaurer, car nos activités humaines les ont détériorées, mais comme un espace qui n'a plus grand-chose à offrir, car dégradé et donc sacrifiable. Comment assurer une gestion de l'eau, une filtration, même minime, de nos rejets industriels et agricoles, ou encore la captation de carbone et l'accueil d'une certaine biodiversité en drastique déclin, si nous supprimons les solutions fondées sur la nature que nous avons déjà à disposition, comme les zones humides. Sans parler de tous ces faits scientifiques, de nombreuses ONG et experts scientifiques alertent sur le net recul de démocratie de l'eau face à ces simplifications de procédures où le grand public et les syndicats de l'eau locaux n'auraient plus leur mot à dire face à l'appropriation des ressources. Encore une fois, il ne s'agit pas de contraindre les agriculteurs à laisser leurs plantations mourir, mais bien d'admettre que si le territoire est asséché momentanément sur les écosystèmes les plus sensibles, c'est toute la durabilité du système et notre survie qui est menacée. Or, c'est bel et bien la mission des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, que de prévoir l'impact de ces prélèvements et de préconiser les zones où une limite doit être respectée. De plus, donner le rôle de protection des aires de captage à des collectivités qui n'ont ni moyens ou compétences techniques afin d'y parvenir, à l'heure où les instances gratuites de conseil comme les conseils d'urbanisme, d'architecture et d'environnement se voient leur financement réduit, est une faille énorme à la réelle protection de ces zones essentielles afin d'avoir une eau de meilleure qualité dans nos robinets. Le texte prévoit également des mesures sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, donc les élevages de grande dimension. Le gouvernement prévoit de légiférer par ordonnance sous 12 mois pour créer de nouveaux régimes, simplifiant la mise en service et le contrôle des exploitations. Sur le foncier, le projet de loi prévoit des mesures de compensation environnementale sur des espaces non productifs pour préserver les terres agricoles, mais également de dédommager les agriculteurs en cas de recours lors de contentieux environnementaux. Concernant la prédation, le gouvernement a rédigé un chapitre spécifique qui vise à simplifier la défense des troupeaux face aux loups en renvoyant les conditions de tir à un futur arrêté ministériel. La FNSEA, par l'entremise de son président, Arnaud Rousseau, a répété à plusieurs reprises la nécessité de mettre en place une loi spéciale pour l'agriculture sur le modèle de ce qui a été fait pour Notre-Dame ou les Jeux Olympiques. De son côté, le président des jeunes agriculteurs, Pierre Corel, presse le gouvernement et le Parlement de tenir le calendrier. Il souhaite aussi que ce texte permette de réduire notre dépendance aux importations et de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Cela signifie aussi que si une pratique agricole est attaquée pour usage nocif sur l'environnement, l'entreprise agricole pourra demander un dédommagement pour le dérangement. Vous pouvez retrouver le lien du dossier de presse de ce projet de loi sur le podcast de cet épisode.
Un agronome et historien français disait ceci en 1993.
Il n'est pas d'exemple que dans l'histoire d'une civilisation ait résisté à la destruction de sa base paysanne. Il nommait alors les paysans jardiniers du paysage.
Un jardinier qui jongle avec les éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Que diriez-vous de tendre la feuille à un conte enchanté de ce qui nourrit le vivant ? Histoire courte d'une goutte.
C'est l'histoire d'une goutte. Une goutte d'eau potable. C'est une histoire courte. Aujourd'hui est un jour comme un autre. Une goutte sort du robinet. Et tout d'abord, elle s'étire, puis se gonfle comme un petit ballon. Son premier geste, c'est de couler tout simplement. Elle se pose sur le lavabo, à côté, avec des mouvements rapides. Quelqu'un se brosse les dents. La goutte a peur. Elle reste dans son coin, entourée de centaines de sœurs jumelles, tout aussi muettes, terrifiées, immobiles. Elle surveille cette énorme bouche qui se tord. Une main s'agite de haut en bas, et bientôt une mousse opaque et blanche dégouline. C'est sûr, le pire va arriver. Ça y est, la bouche crache. Pour la goutte, c'est le début de la fin. Une cascade d'eau l'engloutit. Elle serre les mains de ses sœurs et tourne mille fois sur elle-même. Swish, swish, swish. Dans une ronde folle, une course effrénée. Elle glisse à toute vitesse, patine sur les toboggans cuivrés des profondeurs, tournoie, s'envole, virevolte comme une libellule des mers. Cette petite goutte de rien du tout entre dans un monde extraordinaire. Malgré le noir et la confusion, elle distingue des choses inconnues, inouïes, taches de couleurs, visages joufflus, animaux sauvages, fleurs d'eau, océans glacés, arbres tropicaux, plantes grasses, cascades de lumière, monstres aquatiques. Et swish, 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 swish. Soudain, tout s'arrête. La lumière la remplit. Elle ouvre les yeux. Et sous ses pieds, il y a du ciment. C'est l'extérieur. Un caca de pigeon, un mégot, un caillou, ce sont ses derniers compagnons de route. Car une goutte d'eau, toute seule, sur un trottoir, sèche, bien sûr, en un clin d'œil. Mais combien sont-elles, toutes ces choses, qui disparaissent, sans qu'on ait eu le temps de les voir ?
L'eau est un élément fondamental pour tout artiste. Un jour ou l'autre, tout le monde sera confronté à sa représentation. Tandis qu'elle sera un simple passage pour certains, d'autres comme Monet, le père du mouvement impressionniste, passera une grande partie de sa vie à la peindre. Depuis des siècles, les artistes s'en sont inspirés pour illustrer la beauté des paysages, le mouvement, les symboles de purification ou de renouveau. Aujourd'hui, avec tous les défis environnementaux auxquels nous devons faire face, l'eau devient une muse pour les artistes engagés qui cherchent à sensibiliser le public à sa préservation. À travers des œuvres poétiques ou provocatrices, ils mettent en lumière les problématiques liées à cette ressource précieuse. Jason de Kerr Taylor, sculpteur britannique, est célèbre pour ses sculptures sous-marines, qui agissent comme des récifs artificiels, favorisant le retour d'une certaine biodiversité marine. Son projet Museo Atlantico, aux îles Canaries, est un exemple marquant de l'utilisation de l'art pour régénérer les écosystèmes marins, tout en offrant aux visiteurs une expérience immersive et engagée. Ce type d'initiative montre que l'art peut être à la fois un moyen de sensibiliser et un outil concret pour la protection des ressources en eau.
Tu y as pêché où, baobab, acajou?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.